divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Bonjour à toutes et à tous, Marc de Zouter en votre compagnie pour cette émission que nous allons consacrer à la laïcité. Pour en parler, nous avons invité Sylvain Zegny, conseiller national de la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Cette émission est réalisée dans des conditions assez particulières liées aux dispositions sanitaires qui font que je suis seul en studio et notre invité intervient par téléphone. Bonjour Sylvain Zegny.
Bonjour Marc.
Vous êtes universitaire, maître de conférences à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, chercheur et docteur en sciences économiques. Vous avez publié aux éditions Ellipse un ouvrage co-signé avec Philippe Abécassis et Philippe Batifoulier intitulé « Le rôle de l'État dans la vie économique et sociale ». Votre signature est souvent apparue au bas de nombreux articles dans le journal Les Échos tout au long de l'année 2020. Mais c'est en qualité de membre de la commission Droit de l'homme et laïcité du droit humain que vous intervenez ce matin sur cette antenne, car la laïcité est particulièrement d'actualité en ce moment. Une loi contre les séparatismes est en gestation, elle porte d'ailleurs le nom de « loi confortant les principes républicains » et elle devrait être présentée en Conseil des ministres le 9 décembre prochain, date symbolique puisqu'elle correspond à l'anniversaire des 115 ans de la loi sur la laïcité. Alors cette date de 1905 semble être le point de départ de la consécration de la laïcité dans notre pays, mais bien des lois laïques l'ont précédée, Sylvain Zegny.
Vous avez raison, la laïcité comme régime politique ne commence pas avec la loi de 1905, ni même d'ailleurs avec l'apparition du terme laïcité dans le vocabulaire politique. Il y a eu nombre de lois laïques bien avant la loi de 1905, comme par exemple l'institution du mariage civil en 1792 et sa disjonction avec tout mariage religieux. On pourrait aussi citer les lois scolaires de la Troisième République, qui relèguent l'instruction religieuse dans le domaine privé.
Et puis il y a eu la loi de 1881 sur la liberté des funérailles. C'était là aussi une petite révolution, non ?
Ah bien sûr, parce que ces lois du 14 novembre 1881 et celles du 5 avril 1884 ont aboli le caractère confessionnel du cimetière. Mais celles des 15 et 18 novembre 1887, elles ont consacré la liberté pour chacun de décider du lieu et du mode de sa sépulture. Cela a ouvert la voie à la reconnaissance de la crémation, par exemple, comme mode de sépulture légale.
Et tout au long du XXe siècle, puis du début XXIe, des lois ont encore affirmé le caractère laïque aux grandes dames des églises de tous bords, non ?
Oui, la loi proclame la laïcité de l'État et consacre pleinement la liberté de conscience. C'est cela qui a permis aux chercheurs de s'affranchir des contraintes de la religion. Ainsi, dans le domaine de la santé, cela leur a permis des avancées, notamment en matière de greffe, en matière de recherche sur les cellules souches, par exemple. Mais aussi, on a pu observer que la sécularisation de la société a permis la légalisation de la contraception, celle de l'IVG, et même le mariage pour tous.
Alors, toutes ces lois consolident l'ancrage laïque de notre République, Sylvain Zegny, et ce n'est pas fini, bien sûr. Quels sont les chantiers à venir ?
Ah, d'autres chantiers sont ouverts. Notamment celui de la fin de vie, mais aussi celui de la PMA, de la GPA. On le voit, la laïcité, en dissociant le civil du religieux, a produit plus de liberté que ne l'a fait aucune religion investie du pouvoir politique, notamment pour les droits des femmes.
Alors, lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez précisé que, selon vous, le régime de laïcité reposait sur deux principes, la neutralité de l'État sur la question des croyances et incroyances et la liberté d'expression. Pouvez-vous nous développer ce point de vue ?
Le régime de la laïcité repose en effet sur deux principes, comme vous venez de l'affirmer. D'une part, celui de l'autorité publique qui s'abstient au sujet des croyances et incroyances. Ça n'est pas la neutralité. C'est le principe de laïcité stricto sensu. Le second principe est que partout ailleurs, y compris en public, la liberté d'expression s'exerce dans le cadre du droit commun. En France, en vertu du principe de laïcité, les tribunaux, les salles de conseil municipal ou bien l'école publique ne peuvent pas porter de signes religieux. De même, les magistrats et fonctionnaires sont tenus à la réserve en matière de croyance et d'incroyance, mais uniquement dans le cadre de leurs fonctions. En dehors de cela, le principe de liberté prévaut.
Mais vous savez, il y a une idée reçue selon laquelle, en vertu du principe de laïcité, tout ce qui est religieux relève de la sphère privée et ne doit pas en sortir. C'est un malentendu, selon vous ?
C'est effectivement un lourd malentendu. Depuis quelques années, le débat est faussé. Par la focalisation du débat public sur la question de la visibilité du religieux dans l'espace public, notamment dans la rue. On l'a vu avec le débat sur la question du voile intégral dans la rue. Mais la laïcité, ça n'est pas le rejet des opinions religieuses, ou non, dans la sphère de l'intime. On peut avoir la croyance ou l'incroyance qu'on veut, la manifester publiquement, pourvu que cela respecte le droit commun. Ainsi, on peut porter un signe religieux ou non en public, s'exprimer publiquement sur des sujets religieux, écrire, dessiner, publier librement, manifester son appartenance religieuse ou sa non-appartenance religieuse d'ailleurs, dire tout le bien et bien entendu aussi tout le mal qu'on pense de telle ou telle religion, de telle ou telle doctrine.
Et qu'en est-il de l'école Sinévazegni ? Car là, la visibilité du religieux est un sujet plus que passionnel. Il a même fallu légiférer sur ce point.
Effectivement, nous avons légiféré sur le port des signes religieux à l'école, notamment en 2004. Mais à l'école publique, l'abstention en matière de religion et d'opinion doit s'appliquer, bien entendu, au personnel. Mais pourquoi et dans quelle mesure s'applique-t-elle aussi aux élèves ? On ne le dit pas assez. Les élèves sont-ils des usagers ? Eh bien non, les élèves ne sont pas des usagers. L'école publique primaire et secondaire sont soustraites à l'espace civil ordinaire. Cette école primaire et secondaire fait partie des dispositifs constitutifs de la liberté parce qu'elle accueille des libertés en voie de constitution. Encore une fois, il ne s'agit ni de la rue, ni d'un simple service au sens ordinaire du mot. Il ne s'agit pas pour l'école de dire « il y a différentes communautés et chaque communauté fait ce qu'elle veut, c'est toujours respectable ». Si elle disait cela, si elle affirmait cela, chacun resterait campé sur son appartenance, à supposer d'ailleurs qu'on en est une. L'école doit permettre la mise à distance de ce qu'on croit penser, de ce que l'on croit être. Il s'agit d'aller au-delà de la simple tolérance, là où le doute est non seulement permis, mais requis.
Mais vous dites que l'école primaire et secondaire est soustraite à l'espace civil ordinaire. Diriez-vous que l'école ouvre pour l'enfant la porte d'un autre monde ?
Bien entendu. En passant le seuil de l'école, un enfant devient un élève. Il redevient un enfant en sortant de l'école. On oublie trop souvent que l'élève qui ôte ses signes religieux à l'entrée de l'école publique les remet en sortant. Il y aurait privation de liberté si l'État interdisait à tout le monde et partout d'arborer des signes religieux. De même, il y aurait privation de liberté si l'État laissait des communautés en imposer le port à leurs prétendus membres partout, en public et tout le temps. L'école publique offre aux élèves une double vie.
C'est ce que vous appelez la respiration laïque ?
Tout à fait. Il faut savoir quand et où on doit s'abstenir. Quand et où la liberté la plus large s'exerce. La liberté doit être la plus large possible. Les restrictions doivent être encadrées strictement par la loi. L'école est un lieu emblématique de cette distinction, et pas seulement sur la question des opinions religieuses, politiques ou autres.
Vous dites aussi que l'on se pose parfois dans la sphère publique de fausses questions laïques. Quelles sont-elles ces fausses questions ?
Oh, il y en a plusieurs. Il y a de faux débats, effectivement, sur la laïcité. Ainsi, ce n'est pas parce qu'elles sont religieuses que des prières de rue sont interdites, mais parce qu'elles s'imposent à autrui et accaparent la voie publique, bloquent des rues, par exemple. Ce n'est pas comme signe religieux que le voile intégral est interdit dans la rue, mais là encore, parce qu'il est une des façons de masquer volontairement ce visage. Et je sais bien, évidemment, en disant cela, qu'en période de port du masque obligatoire dans les rues, c'est un peu, évidemment, drôle.
Effectivement. Mais quid alors des processions, des fêtes religieuses qui, parfois, sont classées au patrimoine de l'UNESCO, comme les ostensions limousines ?
Ces manifestations religieuses sur la voie publique doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes. Elles sont donc légales si elles sont autorisées par la puissance publique. D'ailleurs, récemment, les catholiques qui manifestaient devant leurs églises pour réclamer l'ouverture de ces églises en période de confinement, n'avaient pas, pour la plupart, demandé ces autorisations. Donc les processions, les ostensions du Limousin, sont tout à fait légales à partir du moment où la demande d'autorisation a été faite.
Alors vous
Comme on le voit encore, ici la laïcité, ce n'est pas l'interdiction des expressions religieuses.
Alors vous évoquiez tout à l'heure les deux principes qui combinent le régime de laïcité, mais vous en dénonciez des dérives. Alors quelles sont-elles ces dérives ?
Ah, il y a deux dérives. Tout d'abord, une tentative d'en assouplir les règles au nom des libertés fondamentales et d'une vision souvent communautariste de la société. Ce que le président d'ailleurs nomme les séparatismes. C'est ce que l'on appelle la laïcité adjectivée. Celle-ci peut prendre le nom de pluriel, ouverte, positive, raisonnable, apaisée, inclusive, etc. Cette vision de la laïcité donne raison à la dérive communautaire en la légitimant.
En fait, si je vous comprends bien, adjectiver un principe, c'est un peu l'affaiblir. Et la seconde dérive, quelle est-elle ?
Elle concerne la récupération de la laïcité par les familles politiques qui, après l'avoir longtemps combattue, y voient désormais un outil à même de soutenir leurs propositions. Celle-ci étant tout autant à l'opposé de l'idéal maçonnique que la vision communautariste. Très clairement, ces familles politiques sont celles de l'extrême droite et notamment, évidemment, du Rassemblement national. Les deux dérives que je viens de décrire se renforcent l'une l'autre. Nous sommes dans les deux cas à l'opposé de la laïcité et de l'universalisme que les francs-maçons défendent.
Mais justement, comment expliquez-vous que l'extrême droite se soit emparée de la laïcité pour la retourner contre une religion en particulier ?
Eh bien, la gauche a déserté le terrain laïque en grande partie, en développant une approche communautariste. L'extrême droite s'est nourrie du rejet des politiques multiculturalistes et communautaires. Elle a développé son fonds de commerce, jouant sur le réflexe anticommunautariste. Face aux deux dérives, l'État a été parfois hésitant et peu clair sur ses intentions. Quel est le discours du président de la République qu'il faut retenir ? Celui d'avril 2018 au Collège des Bernardins ? Celui des Mureaux en octobre 2020 ? Le discours promouvant une laïcité néoconcordataire ? Ou celui luttant contre le séparatisme ? La laïcité est un principe universaliste et transcendant. Elle est trop importante pour être laissée aux hésitations de l'État et aux calculs politiques. La laïcité s'oppose au morcellement de la société et au repli communautariste, au séparatisme. C'est tout le contraire de ce que promeut l'extrême droite.
Alors, venons-en, si vous voulez bien, au rôle très important de l'éducation et de l'école dans la compréhension de la laïcité.
Dans une récente émission sur France Culture, Catherine Kinsler disait « On n'enseigne pas la laïcité, à moins qu'elle soit au programme, bien sûr. Mais lorsqu'on dit que l'enseignement est laïque, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre autorité dans la classe que le savoir qui est à lui-même sa propre légitimation. » C'est l'autoconstitution de l'autorité qui se forme à travers l'accès et l'appropriation des savoirs par les élèves. Je ne saurais mieux dire.
Sylvain Zegny, ce qui est important dans la mission d'éducation dont vous parliez tout à l'heure, c'est la possibilité, dans le cadre de l'école, de s'initier à l'esprit critique, de penser par soi-même, de découvrir finalement sa propre liberté, à commencer par la liberté d'expression. Mais il faut rappeler quand même que pour l'avoir fait, un professeur de Conflans, Samuel Paty, l'a payé de sa vie. Comment l'enseignant que vous êtes a-t-il vécu cet attentat ?
Le meurtre de Samuel Paty m'a évidemment bouleversé, et a bouleversé les enseignants, et au-delà, bien sûr, la nation. L'enseignant transmet des connaissances, mais pas seulement. Il doit susciter la curiosité, la réflexion. Et ce meurtre met en évidence qu'il nous est de plus en plus difficile dans nos classes de susciter la curiosité et l'ouverture d'esprit à des élèves soumis aux injonctions des prêcheurs de haine.
Alors, le droit humain a vivement réagi à tous les attentats. Vous trouverez les communiqués de presse qui en font état sur notre site internet. Sylvain, on approche de la fin de cette émission. Je ne voudrais pas que l'on oublie la dimension internationale du droit humain. Ma dernière question porte donc sur la vision de la laïcité à l'étranger, où elle est très mal comprise, notamment dans le monde arabe, mais pas seulement, vous le savez. Elle est pointée du doigt dans certains journaux aux États-Unis et elle suscite beaucoup d'interrogations chez les musulmans. Êtes-vous inquiet de ces malentendus et comment faire comprendre que la laïcité n'est pas la caricature qu'on en dresse à l'étranger ?
Je ne suis pas inquiet au sens où ce phénomène n'est pas nouveau. La séparation du civil et du religieux est très difficile dans certains pays. L'islam ne sépare pas la religion du politique, il lui est donc très difficile de comprendre la laïcité. Quant aux pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, Morale civile et morale religieuse sont souvent confondues et un individu ne saurait être vertueux s'il est athée. Pourtant, en paraphrasant Pierre Bayle, le philosophe qui inspira les Lumières, je dirais, il n'est pas plus étrange qu'un athée vive vertueusement, qu'un croyant se porte à toutes sortes de crimes.
Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission. Pour réécouter cette émission ou en savoir plus sur le droit humain, retrouvez toutes les informations sur notre site en tapant « droit humain » sur votre moteur de recherche préféré. Autre information, le numéro 5 de la revue Perspective « Les cahiers du droit humain » sur le thème « Confinement, secret et transparence » est désormais disponible pour vous le procurer. Eh bien, rendez-vous sur notre site, sans oublier que le droit humain est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Nous assister pour la réalisation de cette émission au Pays et le Gras avec la collaboration de Claire Poinsignon et Nasser Moussaoui pour la partie technique. Et merci Nasser, la liaison était excellente. Bonne fête malgré tout, et vous savez que tout ce que recouvre ou peut recouvrir ce malgré tout, meilleure année 2021 à tous. Nous vous retrouvons sur cette même antenne de France Culture le 31 janvier de l'année prochaine. Au revoir.